L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Cet épisode s'intitule « Les crises de l'eau ». Alors vous allez me dire encore un épisode bien anxiogène sur Cire Sismique. On va parler une nouvelle fois de crise, de risque imminent, enfin de trucs pas très drôles. Et ben vous avez absolument raison. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'eau ne coule plus? Le jour où les réserves sont à sec? Qu'est-ce qui se passe quand au contraire il se met à tomber des seaux d'eau du ciel, là où d'habitude il pleuviote? En fait le problème est déjà très concret dans beaucoup d'endroits et il est généralement mal compris, mal géré, mal anticipé. L'eau a un lien direct avec l'agriculture, et donc avec la nourriture évidemment, mais aussi avec l'industrie, avec l'énergie, avec la géopolitique, avec à peu près tout en fait. Et à commencer simplement par la vie. L'eau, c'est la vie. Et je me suis dit que je n'allais pas vous sortir l'épisode juste avant Noël, mais que je n'allais pas non plus vous faire attendre l'an prochain et vous priver du plaisir d'écouter Emma Aziza, qui est hydrologue et experte de l'adaptation au risque climatique. C'est un sujet qui peut un peu remuer, mais qui est évidemment essentiel et je vous invite donc à aller jusqu'au bout. Comme toujours, pour aller plus loin, retrouvez les notes détaillées sur le site sismique.fr avec plus de contenu. Suivez Sismique sur les réseaux sociaux et rejoignez les autres auditeurs sur le Discord. Très bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismique.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
Bonjour Emma.
Bonjour Julien.
Alors Sismique est mon enquête, comme tu sais, sur les mutations du monde et des enjeux qui vont avec, en partant du principe que je n'y connais pas grand-chose. Donc on va essayer ensemble d'y voir un peu plus clair sur les enjeux liés à l'eau. Alors toi, tu connais beaucoup de choses, moi non. Donc c'est très large comme thème évidemment. Donc on va tenter d'aborder un maximum de sujets, comme par exemple les liens entre l'eau, l'économie, nos modes de vie, la géopolitique, le climat. Enfin voilà, ça fait pas mal de thèmes. Et puis les grandes dynamiques actuelles. Pour voir ce qu'il faut avoir en tête pour affiner justement notre vision du monde pour comprendre un petit peu ce qui se joue. On commence par la question classique. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire pourquoi tu penses être une interlocutrice pertinente pour parler de ce vaste sujet?
Alors, tout d'abord parce qu'en fait c'est mon métier. Déjà, je suis hydrologue, donc effectivement j'ai fait des études en sciences de l'eau. L'hydrologie, ça traite vraiment de la question de l'eau, si tu veux, sur les continents. On n'est vraiment pas sur les milieux océaniques. Et en fait, l'eau, c'est une quête qui m'accompagne depuis longtemps. Je me suis d'abord, tu vois, spécialisée en hydrogéologie. Après, j'ai découvert l'hydrologie. Donc, l'hydrogéologie, c'est les eaux qui sont dans les profondeurs. Et ensuite, j'ai travaillé sur les eaux de surface. Et donc, j'ai commencé très rapidement à aborder les questions des sécheresses. Puis après, je me suis concentrée sur les inondations. Et puis, j'avais toujours ce fil conducteur qui était la question de la gestion de la demande et de la ressource en eau et des autres dimensions auxquelles ça fait appel. Si tu veux, la géopolitique, derrière, comment on relie l'humain à cette question de l'eau. Donc voilà, c'est un long chemin. J'ai fait mon doctorat sur ce sujet et puis j'ai créé un centre de recherche qui travaillait justement sur la résilience des territoires et qui s'appelle Mayan, qui veut dire la source d'eau. Donc tu vois, c'est encore un truc qui me suit tout le temps Et voilà, j'ai aussi créé une asso qui forme les enfants sur les enjeux de l'eau. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de viscéral et d'essentiel et bien souvent d'oublier en fait dans les grandes questions environnementales que l'on traite aujourd'hui.
Ah, donc l'eau, l'eau c'est la vie, l'eau c'est ta vie, quoi. C'est pour faire un mauvais.
C'est ça.
Moi, je propose qu'on se concentre durant cette interview sur l'eau douce, en tant notamment ressource indispensable à la vie, à notre vie, puisque l'eau c'est aussi et surtout d'ailleurs les océans. Mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc, commençons par définir le cadre. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'eau douce?
Alors en fait, si tu veux, l'eau douce, en fait, c'est l'eau qu'on va concevoir comme une ressource qui va être facilement utilisable par l'homme. C'est-à-dire que c'est une eau qui est non salée, parce que dès que tu vas avoir de l'eau salée, tu vas avoir ce problème de salinisation. On en parlera plus tard, mais du coup, tu peux quasiment pas faire de l'agriculture avec de l'eau salée. C'est quelque chose qui est impropre à l'homme. Donc en fait, c'est de l'eau qui est consommable à la fois pour la nature, parce qu'il faut jamais oublier qu'avant l'homme, le premier utilisateur de l'eau, c'était la nature. Et puis deuxièmement, effectivement, pour l'homme. Donc en fait, c'était cette espèce d'eau ressource qui est l'eau douce en fait, et que tu vas retrouver partout. Tu vas la retrouver dans les rivières, tu vas la retrouver dans les lacs, dans les glaciers, dans les zones humides. Donc en fait, c'est toute cette eau-là qui est précieuse. Et si tu veux, c'est important de comprendre un peu les ordres de proportion, parce que justement, on a tendance un peu à avoir des schémas très type que l'on apprend à l'école. Et c'est intéressant d'aller un peu plus loin, tu vois, et de comprendre qu'en fait, où elle se trouve cette eau douce, en quelle quantité. Donc, si tu veux, tu as à peu près, pour faire schématiquement, t'as, sur les 100% d'eau que tu as sur notre planète bleue, tu vas avoir quasiment presque 97% qui sont effectivement dans les océans. Après, tu as 2% d'eau douce, tu vois, que tu vas retrouver dans les glaces, donc dans l'Antarctique, le Groenland, tout ça. Et puis, il te reste 1,1% en fait pour les eaux souterraines. Et le chiffre qui est, d'après moi, le plus frappant et qui est important à comprendre, parce qu'on en parlera derrière, c'est que sur toute cette eau sur Terre, il reste 0,00012% pour l'eau des rivières, pour l'eau des sols. Donc en fait, tu vois, c'est une part infime et c'est la seule qui est directement accessible à l'homme. Donc voilà, c'est vraiment un gros enjeu. Et si tu veux, pour aller plus loin, il faut comprendre aussi que cette eau qui arrive sur les continents, celle qui nous intéresse, cette eau douce, elle ne peut arriver, elle ne peut se renouveler que par la pluie. Et en fait, si tu veux, t'as vraiment l'énergie solaire qui va être une espèce de moteur pour permettre justement l'évaporation, la condensation et les précipitations. Donc, ces pluies qui nous arrivent. Et en fait, quand ces pluies, elles arrivent, en fait, elles vont arriver sur le sol. Et il faut savoir que déjà, t'as le 2/3 qui repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc, souvent, moi, j'entends les agriculteurs nous dire « Oui, mais il y a énormément de pluie qui tombe sur nos sols. On n'utilise qu'une infime partie. » Mais de toutes les façons, sur cette pluie qui tombe, t'as déjà le 2/3 qui repart. Et sur le 1/3 qui va arriver sur nos continents, si tu veux, en fait, tu vas avoir une partie, donc c'est tout l'écoulement que tu vas avoir sur nos continents. T'en as, à peu près, 20% qui vont rejoindre les rivières et qui vont arriver par ruissellement. Et t'en as que 9% qui s'infiltrent. Ça veut dire qu'en fait, nos eaux souterraines, au final, si tu veux, elles ne peuvent arriver avec la pluie que par, tu vois, que par, il reste 9% en fait qui vont pouvoir arriver dans ces eaux souterraines qu'on capte de manière intensive. Donc, tu vois, c'est pour te donner un peu un ordre de grandeur quand on reparlera des nappes derrière, comprendre qu'en fin de compte, c'est très compliqué dans le cycle de l'eau d'avoir de l'eau dans nos nappes en fait.
Oui, et puis on va parler aussi de la manière dont on peut avoir un impact sur comment l'eau s'écoule, comment l'eau arrive dans les sols, comment elle est préservée avec la manière dont tu as fait l'agriculture, etc. À quoi ça nous sert? Parce que ça nous sert à plein de choses. Évidemment, ça nous sert à boire, à vivre, mais en tant qu'humain et puis en tant que société, que civilisation, pourquoi c'est aussi central? Et après, on verra pourquoi on a aussi tendance à l'oublier, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on vit en ville, quand on vit dans un pays développé, l'eau coule de source, entre guillemets. Enfin, on n'y pense plus. Donc, je voudrais qu'on recommence à penser à quoi ça sert.
Et en fait, l'eau, elle est centrale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, effectivement, t'as raison, ça nous sert à nous boire, ça nous sert à nous laver. Donc toute la question de l'hygiène, de l'assainissement, ça nous sert aussi à nous nourrir. Et en fait, nous nourrir, on oublie qu'à chaque fois qu'on se nourrit, en fait, on se nourrit parce qu'il y a eu de l'eau avant pour qu'on puisse avoir notre assiette. Et si tu veux, c'est la nourriture et l'agriculture, c'est le premier utilisateur au monde de cette eau bleue. Et donc ça, c'est une majeure partie. Il y a ensuite les industriels qui utilisent l'eau, encore une fois, pour chauffer, pour laver, pour nettoyer. En fait, tout ce que l'on a, tout ce que l'on achète utilise nécessairement de l'eau. Et puis, tu vas avoir notamment l'énergie. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que quand on parle à l'heure de la COP26, tu vois, où on parle de la question du climat, on a l'impression que la question climatique, c'est que le carbone et que l'énergie. Et le problème, si tu veux, c'est que pour avoir de l'énergie, dans la majeure partie des cas, à part pour l'éolien, tu as besoin d'eau. Tu as besoin d'eau parce que tu as besoin de faire une centrale hydroélectrique pour pouvoir créer de l'énergie. Le nucléaire a besoin d'eau. Et donc, quand on parle de pour, contre le nucléaire, je crois que la question, elle est même au-delà de ça, parce qu'on a failli fermer des centrales nucléaires parce qu'il n'y avait plus assez d'eau dans nos rivières. Et donc, tu vois, c'est une question qui est sous-jacente, qui est derrière. En fait, elle est là, présente partout, et c'est quelque chose qu'on oublie complètement.
Et puis même sur le pétrole, avec le fracking qui consomme beaucoup d'eau. Alors après, l'exploitation du charbon, je sais pas comment ça fonctionne, mais...
Exactement. Mais en fait, tout consomme obligatoirement de l'eau. Si tu veux, dès que tu vas extraire, que ce soit le gaz, que ce soit le tout utilise de l'eau. Parce que t'en as besoin dans tous les processus industriels, tu vois. Donc c'est vraiment une question qui est hyper large. Et en fait, quand tu regardes un petit peu notre manière d'utiliser de l'eau, au début du 20e siècle, tu vois, on était 2 milliards sur Terre. Et en fait, on utilisait 600 milliards de mètres cubes d'eau. Et aujourd'hui, enfin, au début des années 2000, tu vois, on utilisait 3800 milliards, c'est-à-dire 6 fois plus. Donc en fait, en l'espace d'un siècle, on a augmenté par 3 la population, mais on a augmenté par 6 notre consommation d'eau. Tu vois. Et cette question-là, c'est une question qui est essentielle parce que s'il n'y a plus d'eau, t'as plus toute la chaîne qui suit derrière, que ce soit industriel, tout, tu vois, et nous à la fin.
Oui, et puis c'est intéressant de se rappeler que, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, on l'oublie, on va voir aussi ce qu'on appelle l'eau virtuelle, qu'on ne voit pas, mais c'est intéressant de se rappeler que dans l'histoire des civilisations, ça commence toujours avec un fleuve, avec des rivières, avec un débord, enfin, avec une capacité à avoir un accès facile à l'eau pour faire l'agriculture, etc. Il y a les quatre premières civilisations du monde qui sont basés autour des fleuves, il y a des grands projets d'irrigation partout, et ça reste d'actualité aujourd'hui, sauf qu'on n'y pense plus, oui.
Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes l'histoire, t'as vraiment l'homme qui s'est toujours installé au bord des fleuves, et quand il s'installait pas au bord des fleuves, ben, il a construit des aqueducs, qui ont permis justement pour les villes qui étaient situées loin de toutes les rivières, ben, cette alimentation en eau des villes. Donc, tu vois, les premiers aqueducs remontent à il y a 4000 ans. Donc, on a toujours tout fait pour faire des tunnels, des canaux, faire en sorte que, si tu veux, on puisse utiliser la force de la gravité pour réussir à acheminer cette eau. Et en fait, il y a toujours eu des solutions qui ont été mises en œuvre. Et d'ailleurs, c'est des trucs qu'on oublie un peu aujourd'hui. Et aujourd'hui, on cherche des fois des solutions complètement folles, tu vois. Par exemple, à l'époque, tu avais une récupération des eaux de pluie qui était naturelle, tu vois. Et aujourd'hui, en fait... T'as des choses qui sont complètement loufoques, comme par exemple, tu vois, on va chercher de l'eau de pluie en 1960. Je te donne un exemple parce que ça m'a marqué, mais tu vois, à un moment donné, l'Arabie Saoudite s'est dit, tiens, on manque d'eau, bah, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, on va aller remorquer des icebergs. Et donc, en 1977, ils ont décidé de créer un énorme projet, tu vois, pour en fait aller récupérer 100 millions de tonnes d'Antarctique, d'iceberg, et pour l'amener, tu vois, jusqu'à chez eux. Donc, un voyage de 8 mois, t'avais 14 000 kilomètres, et en fait, pour récupérer cette eau. Et tu vois qu'avant, si tu veux, on habitait le territoire en fonction de l'eau. Aujourd'hui, on habite un territoire et après, on se dit, ah, mais on n'a pas d'eau. Ah ben, où est-ce qu'on va la récupérer? Tu vois, on a complètement changé le process, en fait. Et donc, voilà, c'est une vraie question qui va plus loin, quoi. On pourra revenir sur cette question de la manière dont on utilise l'eau, quoi. Mais c'est pour donner une image assez frappante, en fait, de la manière dont on pense à l'envers aujourd'hui.
Oui, et puis ça refait le lien aussi entre énergie et eau aujourd'hui dans certains coins du monde. où voilà, moi je suis passé par Dubaï récemment et on voit que donc ils n'ont absolument pas d'eau. Mais évidemment, ils ont construit quelque chose, une ville qui dépend de l'exploitation d'une très grande quantité d'eau, et ça repose du coup indirectement sur le pétrole, puisqu'il faut désaliniser l'eau, etc., etc. Mais je voudrais, on pourra peut-être en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus. Comment cette eau est utilisée aujourd'hui? Donc, on a compris qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait, par rapport à la quantité qu'il y avait. Ça représente quelques pourcentages ou quelques micro-pourcentages. Comment on utilise cette eau? Donc, il y a celle qu'on voit, mais il y a aussi celle qu'on ne voit pas, et comment elle est répartie?
Oui. Alors, déjà, comment elle est répartie? Ça, c'est une vraie question. Donc, en fait, t'as 60% de l'eau renouvelable qui est en fait partagée entre les 9 géants du monde de l'eau. Donc, en fait, t'as l'Amérique du Nord avec le Canada et les États-Unis. T'as l'Amérique du Sud.